Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole sur Africa Radio pour commenter et débattre notamment de l'actualité. Aujourd'hui, mardi, dans le JDA, nous parlons du Congo à l'heure de la présidentielle. L'élection présidentielle a été fixée par décret au 21 mars prochain. Le Parti congolais du travail a investi sans surprise la semaine dernière Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans au pouvoir. Alors, comprenez-vous ce choix du PCT? Et puis, comment créer les conditions de l'alternance au Congo? Nous en parlerons avec Marcus Kissa, membre du collectif Sassoufi, collectif qui vient de publier un rapport sur la gouvernance politique au Congo, justement. Pour participer, posez vos questions à notre invité, appelez-nous directement au standard au 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp et demander à ce qu'on vous rappelle. Le numéro WhatsApp du studio d'Africa Radio, c'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Mais sans plus tarder, nous ouvrons cette émission comme chaque jour avec le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour, amis du GDA. Ici Solange Aouri, ivoirienne d'origine. Et je suis de Gor. Et je suis mariée à quelqu'un du Nord. Je suis mariée à une personne du Nord. C'est pour vous dire que je suis ni RHDP ni FPI. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez de dire le retour de Gbagbo va engendrer beaucoup de choses. Et à la fin qui est sur place, tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez de remuer le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. Arrêtez de remuer le couteau dans la plaie. Les effets qui viennent se passer, Gbagbo était là? Les 30 morts là, c'est Gbagbo qui les a tués? Il faut arrêter. Les fils du pays sont à l'extérieur, qu'ils rentrent chez eux.
Bonjour Stéphanie, bonjour Télésca Radio, bonjour l'Afrique. En Côte d'Ivoire, l'opposition est, je veux le dire clairement, est désordonnée. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du n'importe quoi, je suis désolé. Reporter les élections législatives, je ne vois pas pourquoi. Déjà, pour moi, franchement, les vraies élections, là où l'opposition allait faire vraiment le boulot, et le combat qu'il allait mener jusqu'au bout pour peut-être l'emporter, c'était pour la présidentielle. Ben là, Ouattara est passé président, et puis il a la magistrature suprême. Qu'on le veuille ou non, l'opposition, même si elle pouvait être ensemble pour leur liste unitaire et tout, mais la majorité parlementaire sera toujours de la mouvance présidentielle, ça c'est clair. Je ne vois pas que Alassane Ouattara, qui a tout fait pour qu'il soit là pour un troisième mandat, et qu'il accepte que le Parlement soit dirigé par l'opposition. Ce n'est pas possible, ça sera de n'importe quoi qu'il va faire pour sa part. Et donc, je veux dire que le vrai opposant en Côte d'Ivoire, en fait, pour moi, c'est le champion, c'est Laurent Gbagbo.
Vous savez, l'opposition ivoirienne est dispersée, c'est normal, parce que toute l'opposition n'a pas la même vision. Il y a une opposition molle et une opposition dure. L'opposition dure réclame des réformes qui n'ont jamais été faites. Donc, ils ont raison de boycotter l'élection législative. Donc, moi, je trouve bien raison à l'opposition qui boycotte l'élection législative parce que les réformes n'ont pas été faites. Et pourquoi aller aux élections? Car ils savent déjà que le RHDP aura tout balisé. Merci beaucoup, amis du JDA, et bonne journée.
Bonjour Radio Africa, bonjour Africa Radio. J'appelle aujourd'hui concernant la marche qui s'est préparée demain au Mali, le 20 janvier, pour demander le départ des soldats français au Mali. Moi, je ne suis pas contre les idées différentes. Mais je suis contre les propos que certains Maliens disent contre la France. Il y a des Maliens qui parlent trop mal contre la France. Mais si c'est les Français qui disent ça contre les Maliens, et on dit que les Français ils sont racistes. Vous voyez? Donc quand on fait la politique, on devait parler politiquement. C'est ça qui est bien entre les hommes. Et ce qui m'a fait beaucoup surpris, c'est le propos de Salif Keita, le musicien Salif Keita. Salif Keita, lui, il avait passé tout son temps en France. Tous ses enfants, ils sont français. Tous ses enfants, ils sont en France ici. Et lui aussi, il demande le départ des Français au Mali. Et pourquoi lui aussi, il ne répatrie pas toute sa famille de France au Mali? Pourquoi il ne fait pas ça? Lui, ses familles sont en France et lui, il demande aussi que les Français quittent au Mali. Il devait faire répatrier ses familles, sa famille d'abord en France, au Mali.
L'Afrique centrale regorge de présidents inamovibles. Au Congo, l'ex-marxiste-léniniste Sassou Nguesso a 36 ans de pouvoir et est à son énième mandat sans partage. Je n'entends pas les panafricanistes autoproclamés qui éructaient contre certains troisième mandat. Pourquoi reste-t-il amorphe? Ah, la sélectivité continue.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA au 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, nous lançons le débat sur le scrutin présidentiel au Congo. La présidentielle a été fixée au 21 mars prochain. La semaine dernière, le Parti congolais du travail a investi le président sortant, Denis Sassou Nguesso, pour le représenter à cette élection. Mais ce dernier, qui cumule déjà 36 ans au pouvoir, n'a toujours pas confirmé sa candidature. Alors, que pensez-vous d'une nouvelle candidature de Denis Sassou Nguesso? Comment créer les conditions de l'alternance au Congo après la terrible répression de la dernière élection présidentielle? C'était en 2016. Nous en parlons tout de suite avec Marcus Kissa, membre du collectif Sassoufi. Marcus, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à vos auditeurs.
Merci d'être avec nous, Marcus. Votre collectif a publié un rapport sur la gouvernance politique au Congo. On se souvient qu'en 2015, la modification de la Constitution, puis la présidentielle de 2016 avait donné lieu à des violences et une forte répression. Tout d'abord, je le disais, Denis Sassou Nguesso n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. Est-ce que nous le doute qu'il le fera selon vous?
Bon, ben, généralement, on est dans une théâtralisation. C'est le même mode opératoire. En 2016 aussi, il disait qu'il ne voulait pas forcément se présenter. Et c'est à la dernière minute qu'il l'a fait. On est dans une forme de, comme je disais, de théâtralisation où l'objectif, c'est de donner l'illusion tant à la communauté nationale qu'internationale que le peuple congolais désire absolument sa candidature. Et aujourd'hui, on voit, même sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui tournent où des pagnes à son effigie sont déjà imprimées, des t-shirts, des affiches. Donc je le vois très mal, M. Sassou, entrer dans une forme de dépense financière pour financer justement cette campagne de communication et ne pas se présenter au final.
On entend bien ce concept de théâtralisation du pouvoir. Une deuxième question, Marcus Kissa, avant d'écouter, de donner la parole aux auditeurs. Vous écrivez en introduction que les méthodes employées en 2015, en 2016 refont surface. Concrètement, quelles sont les méthodes que vous détaillez dans votre rapport?
Alors, nous, on a pris les deux années précédentes comme repère, mais surtout la dernière année où on constate qu'il y a une sorte de stratégie mise en place par le pouvoir de Brazzaville qui se définit en trois étapes. La première, c'est l'intimidation. Le fait de mettre la pression sur les citoyens congolais, la société civile et même la classe politique. Ensuite, le deuxième palier, c'est la répression. Donc, on passe directement aux arrestations. Il y en a plusieurs faits que nous relevons et qui sont mentionnés dans le rapport. Et ensuite, on a la corruption qui est là pour confirmer un peu confirmer et rassurer ceux qui soutiennent le pouvoir et éventuellement embaucher de nouvelles personnes. Et tout ça s'est mis dans une forme de machine musicale pour faire en sorte que la population soit apeurée du fait justement de cette intimidation et de cette répression, mais aussi conforté par rapport à ceux qui sont corrompus, conforté par le fait que si vous nous rejoignez, écoutez, les lendemains seront meilleurs. On a constaté cette année l'entrée massive d'armes de guerre. On a intercepté deux de ces importations avec des documents à l'appui, comme le manifeste d'un navire, si mes souvenirs sont bons, azerbaïdjanais, si c'est bien ça, faisant rentrer un certain nombre d'armes de guerre. Donc on se pose la question de la nécessité de faire rentrer des armes de guerre dans un pays qui est en mal et en souffrance à cause d'une crise financière et sanitaire dont il n'arrive pas à s'en sortir.
Intimidation, répression, corruption, hein, c'est le triptyque hein, que vous dénoncez dans votre rapport. Restez à l'écoute, hein, Marcus Kissa. On reviendra aussi hein, sur la situation financière hein, du Congo, hein, pointée à de multiples reprises hein, par notamment le Fonds monétaire international. Je demande à Liane Odongo Tanguy de patienter un petit peu. Si vous voulez réagir, hein, 33 1 55 07 58 00. Rapidement, hein, juste ce message de Christian depuis le Tchad hein, qui dit le choix du PCT, c'est juste pour maintenir Sassou au pouvoir. Comme c'est une pandémie en Afrique francophone, ça continue à gagner l'Afrique. Nous sommes très loin de la réalité pour avoir l'alternance dans certains pays. C'est une décision très dure et responsable. Il dit, faut le prendre exemple au Niger, nous dit Christian. Tanguy, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour Tanguy, bienvenue dans le journal des auditeurs. On se souvient, en 2016, Jean-Marie Michel Mokoko avait suscité une certaine espérance, hein, espoir, un certain espoir hein, dans l'alternance. Depuis, il a été condamné à 20 ans au moins de travaux forcés. Est-ce que, contrairement à 2016, cette élection en 2021 suscite moins d'espoir, selon vous ?
Bah, écoutez, cette élection suscite moins d'espoir pour deux raisons. La première raison, c'est que nous connaissons aujourd'hui les tenants et les aboutissants de cette élection. On sait que le Congo sort d'une crise accrue, une grande crise qui a été très mal gérée au niveau du pouvoir actuel et aussi de l'opposition, parce qu'il faut bien distribuer les cartes. Une opposition que nous n'avons pas vue, qui n'a pas été visible pendant toute cette crise. Moi, je les appelle les opposants pour les élections. Aujourd'hui, on parle d'élections et ils sont tous présents. Mais on n'aura pas aujourd'hui dans l'opposition, je ne veux pas me faire prophète, on ne sait pas dans les jours à venir qu'est-ce qui va se présenter. On n'aura pas un autre Jean-Michel, Marie-Michel Moukoko qui va susciter l'espoir ou qui va aujourd'hui apparaître pour dire aux Congolais qu'il y a un nouvel air, un nouvel espoir. Parce que tous ceux qui sont là sont des gens qui ont géré ce pays, qui sont connus par tous les Congolais et on sait exactement comment ils ont géré ce pays et qu'est-ce qui les a amenés à l'opposition. Donc pour moi, je pense que c'est une élection de trop. C'est une élection de trop dans la mesure où les Congolais, chez nous on dit, hein, tirent le diable par la queue. C'est une expression que tous les Congolais qui nous suivent comprendront. Le souhait pour moi serait de voir aujourd'hui tout cet argent qui va être dépensé pendant cette élection, parce que je tiens à vous signaler que les élections au Congo, c'est beaucoup d'argent qui sont dépensés, énormément d'argent. Et aujourd'hui, les retraités au Congo ne sont pas payés. On accuse des vingtaines de mois d'arriérés de pension, les étudiants également. Pourquoi ? Quelle serait la nécessité d'aller à une élection où nous connaissons très bien qui sera le vainqueur ? Parce qu'il y a une vanne qui dit qu'en Afrique, avant même qu'il y ait élection, on sait déjà qui est-ce qui va gagner. Juste pour vous dire, vous avez posé la question de savoir que le candidat du PCT n'a pas encore déclaré officiellement sa candidature. Mais quelle candidature voulez-vous qu'il déclare officiellement alors que son parti l'a déjà désigné comme candidat et aujourd'hui, les opérations de communication ont déjà commencé à être, sont déjà faites. Sa jeunesse est en train de mobiliser. Donc, on ne voit personne d'autre le faire. On a comme l'impression déjà que la campagne est déjà lancée et il y a une longueur d'avance.
Si j'entends bien, Tanguy, parce qu'après, on va donner la parole aux autres auditeurs. Ensuite, vous, si je vous entends bien et si je vous comprends bien plutôt, vous dites, voilà, au lieu de dépenser tout cet argent pour une élection qu'on connaît déjà, dont on connaît déjà le résultat, autant pas faire d'élection. C'est ce que vous dites un peu.
Autant pas, oui, moi, je fais le choix de la raison. Il y a eu plusieurs élections qui ont été organisées. Quand on fait l'analyse, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul vainqueur. Ça a toujours été le même. Donc, à quoi ça servirait d'engager un processus électoral où nous connaissons déjà les aboutissants? Ça ne servira à rien. Je demanderai à l'opposition, aux Congolais, de rester chez eux, d'attendre que les résultats soient proclamés. On sait déjà qui sera le vainqueur et on passe à autre chose. On sort de la crise, on dépense l'argent pour autre chose.
Merci Tanguy. C'est un peu aussi ce que dit Charles depuis Ouaga sur Facebook. Il y a quoi sert d'organiser des élections qui sont gagnées d'avance? Nous allons aux élections présidentielles. Il fait le parallèle avec les élections en Ouganda où Yoweri Museveni a été élu dès le premier tour. Liane Odongo, bonjour.
Bonjour, bonjour Stéphanie Hartmann, meilleurs vœux pour cette nouvelle année et bien de choses au compatriote Kissa Marcus qui est votre invité aujourd'hui.
Merci.
Stéphanie, hier encore j'écoutais à la radio, on parlait encore du Congo, il y avait Guy Massimba sur le plateau au téléphone qui intervenait.
Dans l'émission de Liliane Niacha, tout à fait.
On avait un représentant de la société civile. J'ai été effaré d'écouter ce monsieur de la société civile. Je ne vais pas rentrer sur ce qui s'est passé hier, moi je suis du Nord. Je viens au Congo, je suis avant toute chose compatriote congolais, et aujourd'hui, Stéphanie, le Congo va mal. Le Congo va mal. Denis Sassou Nguesso a eu une histoire, tant mieux pour lui. Denis Sassou Nguesso aurait pu, au lendemain de la conférence nationale, aurait pu se retirer et rester un sage. Nous sommes des Bantous, il aurait pu se présenter comme un sage pour permettre au Congo de s'émanciper, d'avancer, d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, on a un monsieur qui s'accapare du pouvoir, même le Rwanda qui était derrière nous autrefois et aujourd'hui aux antipodes est meilleur que nous. Il manque de tout au Congo. Nous n'avons pas d'infrastructure, pas d'hôpitaux. Et ça, c'est pas que au sud, c'est au sud, au nord, c'est à l'est, à l'ouest. Le pays va mal. Monsieur Sassou, en tant que bantou, en tant que sage, faillit au passage de témoin. Il aurait dû en tout cas s'exercer à avoir un passage de témoin pour les générations, comme ils disent, générations futures. Malheureusement, l'empereur, comme il est appelé sur le continent, ne réfléchit plus.
C'est son homologue ivoirien, effectivement, hein, qui, je crois, lui a fait un petit clin d'œil comme ça en le nommant empereur. Hein, finalement, c'est cela. Veut tout dire, Liane Odongo, je voulais vous faire réagir sur le fait que Alain instant Tanguy évoquait aussi la responsabilité de l'opposition. C'est vrai que cette opposition, on arrive à l'élection, on ne l'entend pas beaucoup. Alors il y a eu des dialogues hein, qu'elle a plus ou moins boycottés. Est-ce que aussi le maintien du système se fait grâce à une opposition défaillante?
Stéphanie, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Nous n'avons plus d'opposition au Congo, il faut le dire. Comment on peut avoir un président de l'opposition au Congo? Comment on explique ça? Ces mêmes présidents de l'opposition sont souvent cités, dédicacés ici dans des clips musicaux, par des chanteurs. Je prends l'exemple de Kofi Olomide qui a déjà fait un clip de campagne pour M. Denis Sassou Nguesso, qui cite en même temps les enfants d'eux et d'eux. Ces opposants sont au Congo, ont des chauffeurs, ont des gardes-corps, ont des... Non, il n'y a plus d'opposition au Congo. Il faut tout revoir sur ce pays. Il faut tout revoir.
Merci, voilà. Liane Odongo.
Merci pour votre compréhension et bien des choses aux Congolais compatriotes.
Et bien des choses à vous aussi, Liane Odongo. Merci de nous avoir appelé. Marcus Kissa, hein, je reviens vers vous pour vous faire réagir à ce que disait. Je reviens avec la même question, cette question de l'opposition. Je le disais en 2016, hein, il y a eu un certain espoir avec la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko, qui était un ancien proche aussi de Denis Sassou Nguesso. Est-ce que cet espoir est mort en 2021? Est-ce que aujourd'hui, comme le disent les auditeurs, on va vers une élection sans grand suspense.
C'est une lapalissade, finalement. Hein. C'est vraiment une élection sans grand suspense, puisqu'en face, malgré les appels de certaines personnalités politiques et de la société civile à pousser l'opposition à ne présenter qu'une candidature, on constate que cette opposition continue à aller un peu en rang dispersé. Mais... à la décharge de cette opposition, hein, par rapport à ce que disait Tanguy, il faut quand même essayer de relativiser. Aujourd'hui, la situation au niveau du Congo, l'opposition se découpe en deux volets. Celle qui est complaisante avec le pouvoir et celle qui est totalement opposée au pouvoir. Les faits démontrent que celle qui est complaisante est entretenue par ce pouvoir. Il suffit de voir le chef de l'opposition qui est nommé par le pouvoir lui-même, ce qui est une aberration, et financé même par le pouvoir. On a mis la main sur un document, du Trésor congolais qui montre sur une de ces lignes que le président justement de cette opposition fabriquée est financé par le pouvoir. Donc il y a cette opposition complaisante, il y a l'autre qui essaie tant bien que mal de se débattre, mais quand on voit la pression qui est mise sur cette opposition, je ne sais pas comment elle pourrait éventuellement réussir.
Le chef de file de l'opposition désigné, que vous disiez, Marcus Kissa, c'est Pascal Ansatzi. Mabiala, c'est bien ça, hein, président de l'UPADS, premier secrétaire de l'UPADS.
Il faut rappeler, juste une petite parenthèse, il faut rappeler que lors d'une interview complètement surréaliste, M. Satsi Mabiala appelait littéralement à soutenir une énième candidature de Sassou Nguesso, disant qu'il avait quasiment tout réussi et que c'était l'homme de la situation. Donc imaginez-vous les propos, ce genre de propos dans la bouche même du porte-parole, donc du chef de l'opposition.
Merci Marcus. Restez à l'écoute, on se dirige de nouveau vers les auditeurs. Ce petit message de Kyle qui nous dit rien d'étonnant, hein, bonjour, hein, que son parti investisse Denis Sassou Nguesso puisqu'il veut rester au pouvoir jusqu'à ce que la nature fasse son œuvre. On l'a bien compris depuis longtemps. William, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour Talasca Radio, bonjour l'Afrique, bonjour à votre invité.
Bonjour William, vous faites partie de ces auditeurs qui disent finalement les jeux sont faits, il n'y a pas de suspense au Congo, c'est ce que vous dites?
Non, il n'y en a pas Stéphanie, s'il faut attendre... Franchement, le suspense, ça serait un rêve. Le Sassou sera président. De toute façon, sa désignation, c'est, il va dire oui, il ne peut pas dire non. De toute façon, dans le PCT, il n'y a personne qui pourra se prononcer à une candidature dans la justice suprême tant que Sassou ne dira pas que non, moi, j'ai fini.
Certains évoquaient son fils, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, ce n'est pas lui qui sera, c'est Sassou, c'est le président Sassou qui sera encore président. Et pour son fils, ça viendra après. Là, je vous dis, le 21 avril, ça pourrait aller aux élections avec, comme candidat du PCT, Denis Sassou Nguesso, c'est clair. Et il y a une deuxième chose. Quand on parle des opposants au Congo, comme partout en Afrique, parce que moi, je généralise Stéphane très souvent, si vous remarquez, parce que tous, ils sont pareils. Donc, pourquoi? Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun opposant, en fait, qui ne dit quelque chose qui peut rassurer le peuple. Et même si cet opposant disait quelque chose, moi, par exemple, personnellement, moi, je le connais. Ma première intervention sur Africa Radio, sur côté Africa numéro 1, l'invité qui était là, c'était Satou Mabiala. Satou Mabiala voulait venir ici en France. On avait interdit de venir parce que quand il y avait le dialogue de CBT et qu'on sort...
Vous êtes d'accord avec ce que disait notre invité, Marcus Kissa, en disant, voilà, il y a deux types d'opposition et il y en a qui sont plutôt... comment on appelle ça?
Oui, mais Stéphane, j'étais intervenu et j'avais dit, c'est pas deux opposants. Mathias Nzon également, moi aussi je l'avais contredit dans une des émissions du grand Francis Lolpo au grand débat. Parce que tous, et les Mounari, les passeurs Koyela, l'enfant de Koyela, je vous dis Stéphanie, il n'y a personne qui est là pour les intérêts du peuple. Ils sont là pour leurs propres intérêts et ils ont des dettes morales vis-à-vis du pouvoir de Sassou. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Tati Mabiala déjà avait proposé même une transition. Une transition jusqu'en 2023, avec à la tête de cette transition le président Sassou Nguesso, il y a une seule condition en 2023 qui ne soit pas candidat. Est-ce qu'un opposant peut avoir de telles idées et proposer ça à un adversaire politique si lui vraiment il veut prendre le pouvoir? Donc ça, c'est carrément amuser la galerie. Et comme ils ont tous des chantiers, et ils profitent du système pour gagner de l'argent. Merci. Et finaliser leur santé. Donc jusqu'en 2023, ils restent chef de l'opposition et il gagne derrière et le peuple gagne quoi à la fin? Rien, Stéphanie. Donc en fait, le problème qui est là, l'Afrique, et c'est la jeunesse africaine que moi je vais donner un conseil. Parce que je regarde chez moi aussi à Télé-Congo, le PCT est en train de récupérer, je peux dire, toute la jeunesse. En fait, tous les jeunes dans tous les territoires nationaux du pays. Et ces jeunes-là, je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils ont comme combat.
Ils perpétuent le régime. William, je vous interromps parce qu'il y a d'autres auditeurs et le temps passe vite. C'est aussi ça aussi, le propre de la dictature, de savoir s'imposer à tous les niveaux. Merci beaucoup William qui était plutôt défaitiste sur le statut de l'opposition. On va accélérer un peu. Diapa, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour Diapa. Vous dites que pareil, le problème c'est l'opposition?
Oui, c'est l'opposition, c'est le même cas. C'est un cas similaire qu'au Sénégal. C'est-à-dire que eux, ils sont malins, ils jouent le malin.
Toute proportion gardée quand même. Alors je sais bien qu'on aime bien, mais bon, la vie politique sénégalaise est quand même pas la même que au Congo.
Non, parce que non, ici c'est pas parce que eux, ils déposent pas leur candidature pour l'instant. Donc ils attendent l'opposition qui se divise. Il y a le nombre de postes, bon voilà. Du moment qu'ils sont divisés, ils postulent. C'est simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition soudée derrière. Il n'y a pas d'opposition en Afrique. Il n'y en a pas du tout. C'est des gens, le nombre des postes, c'est fini, on l'oublie. C'est ça qui se passe partout.
Les postes, opposition du ventre, si j'ai bien compris, mon cher Diapa, merci beaucoup. Diapa, Marcus, je reviens vers vous pour une dernière question. Vous l'avez dit, évoqué, hein, le Congo hein, fait face à de grandes difficultés économiques. Hein, le pays avait notamment, les autorités avaient notamment caché une partie de leur dette au Fonds monétaire international. Les pensions hein, sont rarement payées. Et il vous écrivait, hein, la corruption n'est pas une anomalie, mais un mode normal hein, du fonctionnement du régime. Ma question est celle-ci, Marcus Kissa, comment se fait-il que, avec tout, que c'est, toutes ces difficultés financières n'aient pas affaibli ce régime ?
C'est la question qu'on se pose, et nous partons du principe que par le passé, il y a eu tellement de corruption, et nous citons même la corruption internationale, hein, des élites internationales, qui fait en sorte que aujourd'hui, comme disait, je pense, une des personnes qui vous a appelé, que certains ont des dettes morales en fait en face de ce pouvoir. Et le pouvoir détient des secrets entre guillemets d'État sur les comportements, les agissements de cette communauté internationale à qui par le passé ils ont été avec qui par le passé ils ont été très généreux et qui aujourd'hui refusent de l'offrir. Il suffit de constater, de prendre la période 2016-2018 pendant la guerre du Pool. Aucun média, à part les médias à tourner vers l'Afrique comme par exemple le vôtre ou de temps en temps RFI, mais aucun média français n'a osé parler de la guerre du Pool. À aucun moment le sujet de la guerre du Pool n'a été instruit au Conseil des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui est assez étonnant quand on essaie de faire le comparatif avec les différents conflits qu'il y a de par le monde, où systématiquement, les jours qui suivent ces conflits, il y a tout de suite une mobilisation internationale, autant au niveau des médias qu'au niveau politique, pour inciter les responsables politiques locaux à arrêter et donc à mettre une sorte de trêve à ces exactions. Et je terminerai sur un point concernant cette corruption, c'est que aujourd'hui certains et surtout ceux du pouvoir s'étonnent du fait que la majorité des personnes, en tout cas des Congolais, refusent cet énième mandat. Mais le problème, ce n'est pas le nombre de mandats. À prendre l'exemple d'Angela Merkel, elle en sera peut-être à son cinquième, je crois.
Pour conclure, Marcus ?
Oui, pour conclure, je dirais, le problème, ce n'est pas le nombre de mandats, c'est le bilan de M. Sassou, et ce bilan plaide contre lui.
Merci beaucoup, Marcus Kissa, on a bien compris. On aura l'occasion, d'ailleurs, hein, peut-être à l'approche du scrutin présidentiel, de faire le bilan du président Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. Merci à Marcus Kissa, notre invité membre du collectif Sassoufi. N'hésitez pas à continuer le débat sur nos réseaux sociaux ou sur le répondeur d'Africa Radio. Je diffuserai vos messages demain en début d'émission. Demain, je vous propose de parler de Barkhane au Mali. À demain.